mon ami Michel Fradet, qui a œuvré de près avec moi à la rédaction de ce livre Japlou.
Et qui posera les questions.
Ah bon, c'est toi qui poses les questions en fait? Ah voilà, donc c'est normal, il est journaliste au départ. Vous voyez, notre numéro n'est pas encore rodé, ça va venir. Bien, alors puisque tu poses les questions, eh bien voilà, je suis disponible.
Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Pierre, vous avez été champion olympique le 2 octobre 1988 avec Japlou. Pourquoi ce livre 25 ans après?
Il me posait des questions auxquelles il a les réponses, puisqu'on a travaillé ensemble sur ce livre. C'est pour vous. Alors,
moi, je vous tutoyais.
Hein, oui. Non, on se connaît très, très bien. Hein, depuis longtemps, je vous expliquerai après. Alors, ce livre, en fait, c'est sur la sollicitation d'un éditeur, donc Michel Lafon, qui, évidemment, sachant qu'il y allait y avoir un film sur notre histoire, a souhaité, et imaginant que ce film probablement prendrait pas mal de liberté par rapport à la vraie histoire, donc m'a demandé d'écrire notre histoire avec Japlou. Mais ça va un petit peu au-delà aussi que la simple histoire avec Japlou. Il y a une forme de... C'est un livre un peu autobiographique. Voilà donc les raisons pour lesquelles je me suis mis à l'écriture grâce à votre concours, Monsieur Fradet.
Bien, où est Japlou aujourd'hui?
Ah, Japlou est dans mon cœur. Il est dans mes pensées. Et il repose dans un petit coin de son pré à Saint-Seurin-sur-Lisle, là où il a pratiquement, en dehors de ses jeunes années, vécu jusqu'à sa mort, donc au centre équestre de Saint-Seurin-sur-Lisle, où il est enterré, puisqu'à l'époque, j'avais pris la liberté de l'enterrer, alors que vous savez que ce n'est pas légal, mais personne ne m'a jamais cherché d'ennui. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris cette décision, parce qu'en fait, c'est une tombe, puisqu'on peut pratiquement raisonner effectivement comme avec un humain. En tout cas, moi, ce qui m'a motivé pour l'enterrer, c'était parce qu'il était légal d'un humain pour moi. Et je suis heureux parce que c'est un endroit très visité. C'est visité par des tas de gens qui viennent de loin, de l'étranger, souvent, qui font un petit détour par Saint-Seurin pour venir se recueillir devant cette tombe. Et les tout jeunes cavaliers qui fréquentent ce centre équestre à l'occasion notamment des compétitions, ben, viennent eux aussi se recueillir devant cette tombe. Donc c'est un lieu de mémoire et je suis finalement très heureux d'avoir pris cette décision. Voilà, donc il est là.
Japlou, qui était-il? Certes petit, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a admiré pour ça, mais il était aussi très particulier, ne serait-ce que dans ses attitudes, dans son comportement, dans sa vie de tous les jours.
Oui, sa singularité, première singularité quand même, surtout à l'époque, c'était sa petite taille. Voilà, tout le monde le sait, il faisait 1,58 m à la base de l'encolure, au garrot. Et ça reste quand même, pour un cheval de la discipline du saut d'obstacle, un cheval de petite taille. Il y en a peu qui ont su s'imposer comme lui au plus haut niveau en ayant sa taille. Il y a quelques exemples. Il y a actuellement un très bon cheval qui a à peu près sa taille, un cheval français qui s'appelle le Ito du Château pour les cavaliers ou les cavalières qui seraient dans l'assistance, qui est monté par une cavalière australienne, Edwina Alexander. On l'a vu au jumping de Bordeaux à plusieurs reprises, mais c'est très rare. En fait, c'est vraiment une exception. Et c'est ce qui l'a singularisé aux yeux du public dans un premier temps. Alors évidemment, en dehors de cet aspect très caractéristique de Japlou, c'est un accident. Je sais que ça ne plaît pas trop à son éleveur quand je dis ça, mais il faut bien quand même reconnaître qu'il n'avait pas de pédigré. Enfin, il avait des origines, mais il est issu d'un croisement qui n'était pas très classique. Et qu'il n'est toujours pas devenu d'ailleurs depuis, d'un trotteur et d'une pure sang. C'est un peu comme si on croisait un labrador avec un lévrier afghan, c'est à peu près ça, enfin en forçant un peu le trait. Mais toujours est-il que pour faire un cheval d'obstacle, on n'imaginait pas ce genre de croisement. Donc pas d'origine véritablement prestigieuse, un croisement improbable, un cheval qui a été quand même conçu au départ par son éleveur pour faire des courses de plat, où il n'a pas excellé, et qui finalement devient donc une star du jumping.
Vous parliez de son éleveur. Justement, vous aviez une autre particularité dans ce couple de Japlou et vous, Pierre. À qui appartenait le cheval ?
Il ne veut pas me tutoyer. Hein. Eh bien, le cheval, jusqu'à l'âge de 6 ans, appartenait à son éleveur naisseur, M. Henri Delage, donc, qui était sur la commune de Saint-Savin-de-Blaye, là où est né Japlou, d'ailleurs, dans une ferme d'un lieu dit Japlou. Et en fait, il est devenu ma propriété quand je l'ai acheté à l'âge de 6 ans. Voilà, et à partir de là, eh bien, je l'ai toujours gardé, conservé auprès de moi jusqu'à sa mort.
Il a fait toutes les compétitions avec vous ?
Je l'avais acheté, oui. Je l'ai bien acheté et bien payé. Pourquoi je l'ai acheté ? Bah parce que, vous savez, quand il y a... D'abord parce que l'éleveur était vendeur, hein, lui aussi. Hein. Il avait d'ailleurs essayé de le... Il avait tenté de le vendre déjà à l'âge de 3 ans, le présentant aux ventes aux enchères. Il y avait des ventes aux enchères à l'époque à Poitiers, qui était très réputé en France, hein, sur les chevaux de saut d'obstacle. Malheureusement, les personnes qui faisaient la sélection des chevaux n'avaient pas retenu Japlou pour son physique, pour ses origines, pour plein de choses. Donc, il est toujours dans la logique d'un éleveur de vendre son cheval à un moment ou à un autre. Et il est dans la logique d'un cavalier, quand il pense détenir un cheval correct, d'essayer de l'acheter. Parce que c'est beaucoup plus, paisible et sécurisant de gérer par la suite un cheval qui vous appartient plutôt qu'un cheval qui appartient à un tiers, que ce soit son éleveur naisseur ou un autre propriétaire. Parce que vous le lirez dans mon livre, si vous y intéressez, vous verrez que dans le milieu du jumping, il y a un grand sport entre les cavaliers, c'est de se piquer les chevaux. Donc quand vous avez un cheval qui a un peu de talent, les autres font tout pour essayer de le récupérer, y compris de vous desservir aux yeux du propriétaire pour qu'il le confie à un autre. Donc j'avais compris cela très tôt. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été propriétaire ou copropriétaire de mes chevaux de compétition pour pouvoir les gérer dans la sérénité. Je me suis malheureusement, puisque Dieu merci, les choses ne se sont pas faites. Après, j'ai eu plusieurs propositions d'achat sur ce cheval. La première proposition d'achat, c'était avant les Jeux Olympiques de Los Angeles, donc en 83. À l'époque, c'est une offre qui m'était venue d'Allemagne et il m'avait été proposé, pour être très précis, comme ça, au moins 1 million de dollars. Le dollar était, la parité était 1 à 10 avec le franc à l'époque, donc ça va vous signifier ce que représentait cette somme.
Ce que représentait Japlou.
Et ce que représentait la valeur potentielle de Japlou à ce moment-là, avant les Jeux Olympiques. J'avais refusé tout de go cette proposition parce qu'il n'était pas du tout dans mes intentions de le vendre. Moi, je n'ai jamais pratiqué l'équitation pour essayer de valoriser mes chevaux dans le but de les vendre. J'ai fait de l'équitation pour faire de la compétition et pour aller le plus loin possible et surtout pour être champion olympique. Donc, ce cheval, je n'ai pas donné de suite à cette offre. Ensuite, il y a eu une deuxième offre qui s'est faite après les Jeux Olympiques de Los Angeles. Après ma chute. Et là, je dois le reconnaître et le confesser, je suis redevenu des Jeux Olympiques plutôt très traumatisé, avec un moral en dessous des bottes, on ne va pas dire des chaussettes. Et à ce moment-là, je me suis sérieusement interrogé sur l'intérêt de continuer la compétition, si ça devait me conduire à vivre une telle épreuve, un tel échec. Et là, une proposition a été faite, et par faiblesse, à ce moment-là, j'ai accepté effectivement de rentrer dans la discussion. Et cette vente n'a pas été à son terme parce que Japlou, c'est ce qui est dit dans le film, d'ailleurs montré dans le film et que je raconte aussi dans mon livre, était porteur sain d'un petit virus qui s'appelle la pyrosplasmose qu'on connaît bien chez les chiens. Ça n'altère pas la santé du cheval, mais un cheval ne peut pas rentrer aux États-Unis s'il est porteur de ce... Et donc à ce moment-là, les acquéreurs m'ont demandé de faire un traitement pour... le blanchir, on dirait exactement. C'est pas soigné, mais pour faire disparaître au test sanguin ce virus de la pyroplasmose. Et entre-temps, je m'étais ressaisi et j'ai dit non, je fais pas le traitement. Donc la vente a été rompue. Voilà, et pour répondre complètement à la question, j'ai eu une troisième proposition après les Jeux Olympiques de Séoul, après avoir été champion olympique, très élevée aussi, à laquelle j'ai dit non. Voilà.
Tu étais quelqu'un d'aussi atypique que Japlou pouvait l'être, parce que tu ne te destinais finalement pas du tout à la profession de cavalier, non pas de jockey, comme certains le disent ou l'ont écrit parfois, de cavalier. Tu n'étais pas un vrai professionnel, tu n'étais pas éleveur de chevaux. Rien ne te destinait à une carrière aussi brillante et une vie de romance.
Non, de romance peut-être parce que j'avais à l'esprit déjà des ambitions, des rêves. Donc forcément, les rêves conduisent souvent à une vie de passion exaltée. Donc ce sont mes rêves qui m'ont porté. Mais effectivement, il n'y avait pas de tradition familiale du tout équestre chez moi. Et c'est par un hasard de la rencontre et de la séduction d'un cheval de trait que je me suis intéressé aux chevaux. Et puis qu'après, donc, voilà, j'ai voulu faire de l'équitation et que ça m'a conduit à là où l'on sait. Mais c'est vrai que tout au long de ma carrière, autant quand j'étais jeune que par la suite, je ne me suis jamais consacré totalement à la pratique de mon sport. Enfin, j'ai fait quelques études, parfois laborieuse, parce que ce n'était pas facile de mener les deux de front. Et puis ensuite, j'ai pu accéder à un métier que j'ai exercé pendant tout le temps, d'ailleurs, de ma carrière sportive, et qui était sans rapport avec la pratique de mon sport. Alors effectivement, ça me positionnait dans le milieu d'une façon très atypique. Donc le cheval était atypique, j'étais assez atypique, nous étions un couple atypique. Voilà.
Et assez novateur dans certains domaines, que ce soit dans le domaine de la préparation, de l'alimentation de Japlou, dans son rythme de travail, avec des périodes de repos qui surprenaient parfois, qui étonnaient, mais qui sont avérées tout de même particulièrement favorables.
Bah, c'est-à-dire que j'avais très tôt à l'esprit, pour moi, pratiquer de la compétition, c'était pour être le meilleur, c'était pour accéder à des titres, notamment ce titre olympique, et pour cela, il fallait que, globalement, je sois parfait et que ma préparation soit parfaite sur un plan global, pas uniquement s'entraîner, faire de la technique, apprendre à bien monter à cheval, mais je crois avoir été novateur sur un point, c'est que j'ai considéré mon cheval comme un athlète sportif. C'était lui l'athlète, évidemment, c'est lui qui produisait l'effort. Mais je l'ai entraîné vraiment comme un athlète de haut niveau, c'est-à-dire tant physiquement qu'au niveau de son alimentation, qui était très adaptée, de ses soins, qui étaient réguliers par des vétérinaires, par toute une attention qui était portée à cet athlète, tant au niveau du physique qu'au niveau de son, comment dire, peut-être pas parler de mental, mais autant de sa tête quand même, hein, parce qu'un cheval, bien sûr, c'est sensible. Donc, et j'ai su aussi ménager des temps de récupération que peu de cavaliers professionnels aménageaient à leurs chevaux, parce qu'eux, ils sont sur le circuit, ils veulent être présents sur toutes les compétitions, donc ils n'hésitent pas à solliciter, parfois sur-solliciter leurs chevaux. Et moi, comme vous l'avez compris, je n'étais pas tout à fait dans cet état d'esprit, donc j'ai su aménager tout un programme de compétition tout au long de la carrière de Japlou, pendant ces 10 ans de haute compétition, où effectivement il y avait beaucoup de temps de récupération, et je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sa carrière a été aussi longue, 10 ans de haut niveau, sans blessure, sans jamais avoir eu une blessure qui l'ait handicapé. Donc je pense que c'est lié, bien sûr, à son tempérament, sa robustesse, parce qu'il avait donc ce côté trotteur quand même qui lui avait donné un physique robuste, mais aussi par rapport au fait qu'il avait été à la fois préparé à l'effort et à chaque fois, il récupérait de ses efforts.
Quel était votre niveau de complicité ?
On va peut-être laisser, oui. Mon niveau de complicité, je pense qu'il a été, au départ, il n'était pas excellent. Et puis quand j'ai fait l'effort d'aller vers lui, de le comprendre, d'essayer de, non pas de forcer son adhésion, mais plutôt de l'amener dans mon jeu, en le prenant en considération, en le respectant beaucoup, en rentrant surtout dans une relation qui n'était pas aussi novatrice à l'époque, hein, une relation affective. Aujourd'hui, les petites filles qui montent à cheval ou qui montent à poney, j'en vois une, j'imagine qu'elle doit monter à poney, n'hésitent pas à être dans une relation très affective avec leurs partenaires, le poney ou cheval. C'est probablement la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce sport est d'une pratique très féminine et que je vois beaucoup de dames ici. Il faut savoir que plus de 80% des licenciés de la fédération aujourd'hui sont des licences féminines. Mais précisément parce qu'il y a cette relation dont les chevaux sont très reconnaissants, ils sont reconnaissants qu'on les aime, ils ont besoin qu'on les aime, ils ont besoin qu'on les touche, ils ont besoin qu'il y ait une relation charnelle. Et à partir de ce moment-là, ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais bon, moi, je n'avais pas été éduqué dans cet état d'esprit, parce que ce n'était pas comme ça qu'on nous apprenait les choses quand j'ai commencé l'équitation. C'était plutôt martial, puisque c'était des anciens militaires. Donc, cheval, c'était... Je ne dirais pas que c'était un instrument, mais... il fallait faire les soins, mais sans plus. Hein, et à la limite, on était un peu moqué, même si on en faisait un peu plus. Et au départ, oui, tout à fait, oui. Au départ, pas après, parce qu'après, ils ne montrent pas justement tout le travail que j'ai fait pour me rapprocher du cheval et toute la fusion, on va en terminer là, l'état fusionnel dans lequel on est rentré par la suite, et notamment à partir des Jeux Olympiques de Séoul, qui était un aboutissement. Donc voilà. Donc là aussi, je pense que j'ai été, en toute humilité, assez, novateur. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup me raillait un petit peu de tout ça, mais où trouvait que j'avais des choix qui étaient totalement irresponsables. Par exemple, Japlou, il allait tous les jours au pré. Et dans les autres écuries de très haut niveau, on me disait, mais tu es complètement fou, il va se blesser, il est tellement précieux, ce cheval, au pré, il peut faire l'idiot, il va ruer, il va se faire une déchirure musculaire, il va se donner un coup au tendon. Donc on me prenait véritablement pour quelqu'un de totalement insouciant ou irresponsable. Mais je savais que par contre, pour mon cheval, c'est très, très nécessaire à son équilibre. Et d'ailleurs, Dieu merci, il s'est jamais blessé, tous les chevaux que j'ai mis au pré. Et il y allait tous les jours, sauf quand le terrain était gelé. Donc qu'il pleuve, qu'il vente, il allait passer au moins 2 heures dehors. Et ça a été très nécessaire à son équilibre. Voilà, maintenant c'est des choses qui se font, parce que maintenant on est dans l'équitation des chuchoteurs, comme on dit, depuis le film de Robert Redford. Mais c'est bien, tant mieux, parce qu'au moins les chevaux sont plus heureux, ils sont mieux considérés, ils sont davantage choyés. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment un progrès. Et c'est même un progrès d'ailleurs dans leur utilisation, parce que je pense qu'ils le rendent bien à leur cavalière ou à leur cavalier. Voilà. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans l'air du temps. Quand on rentre en équipe de France, on doit se plier malgré tout à une discipline de groupe, mais elle n'était pas non plus excessive, mais on doit faire avec celui qui sélectionne, celui qui entraîne, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là aussi, chaque cavalier n'avait pas d'entraîneur, n'avait pas un coach particulier, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cavalier de haut niveau qui n'ait pas un coach à ses côtés particulier. Donc ce qui fait que les entraîneurs nationaux, enfin le sélectionneur est beaucoup plus maintenant un chef d'équipe sélectionneur qu'un entraîneur technicien. Moi, à mon époque, il était tout. Et c'est vrai qu'ils avaient des avis très tranchés, en fonction de leur personnalité, ils essayaient de vous mettre dans le moule, qui était le leur. Donc, il fallait composer ou ne pas composer. Puisqu'il m'est arrivé, à un moment donné, de ne pas pouvoir composer avec l'entraîneur national et d'être rentré en conflit avec lui. Voilà. Sur toutes ces questions de récupération, d'aménagement de carrière. Moi, je me souviens, pour vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner, mais vous donner l'état d'esprit qui était le mien. Quand j'étais sélectionné en équipe de France, avec les compétitions de saut d'obstacle, elles durent 4-5 jours au moins. Et quand on est en sélection nationale, il y a 2 temps forts dans les compétitions, une épreuve par équipe, qui est généralement le vendredi, et le Grand Prix individuel, qui est le dimanche. Eh bien, moi, les 2 premiers jours avant l'équipe, je sortais Japlou pour qu'il prenne, il apprivoise, il se familiarise au terrain, mais je ne demandais pas qu'il soit compétitif. Et parfois, il m'arrivait d'être sélectionné pour un barrage et de ne pas participer au barrage. Et ça avait été un grand sujet de discussion, pour ne pas dire d'incompréhension, avec mon entraîneur de l'époque qui ne comprenait pas qu'étant sélectionné pour un barrage, je ne participe pas pour aller chercher la victoire. Moi, je considérais que je ne pouvais pas entamer les forces vives de mon cheval avant les 2 rendez-vous importants de cette compétition. Voilà, donc il y avait eu des choses comme ça, avec un entraîneur ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, donc ce qui me donnait la possibilité de... J'avais cette autonomie, mais il n'en demeure pas moins qu'aussi, c'est lui qui sélectionnait. Donc s'il ne voulait pas me sélectionner, il ne me sélectionnait pas, ce qu'il a fait d'ailleurs à un moment donné. Hein. Donc il y avait quand même une limite à la contestation, je dirais, ou en tout cas à l'opposition, hein, parce que c'est quand même lui qui détenait la clé de la sélection et notamment de l'accès au grand championnat.
Nous parlions de vie de roman tout à l'heure.
Pardon, j'ai oublié de le... Je vous prie de m'excuser.
Monsieur c'est l'entraîneur national qui l'appelle pour rectifier ce qu'il a dit.
Non, mais c'est... C'est un vétérinaire.
Oui, nous parlions de vie de roman tout à l'heure, mais il y a quand même des signes étonnants. Vous avez eu un cheval vendu par un gitan qui vous avait fait une promesse. Vous avez remporté votre première compétition. Tu as remporté ta première compétition. Voilà. Oui, je vais y arriver.
Mais il est un peu snob. Hein.
Je vais y arriver.
Je vous le dis.
Tu as remporté ta première compétition le 13 avril 1975 à Pau. C'est précisément le jour de la naissance de Japlou. Ce sont quand même des signes, tout cela.
Enfin, moi, j'y ai vu des signes. Je trouve que notre histoire avec Japlou a un petit côté mystique, comme ça, des signes qui sont pas très rationnels, mais qui, quand même, démontrent qu'il fallait que l'on soit l'un avec l'autre et que l'on chemine ensemble. Alors, effectivement, ça, je m'en suis aperçu bien plus tard. Bon, il faut savoir que sur la date de naissance de Japlou, il y a un doute. Oui. Son passeport, donc comme votre carte d'identité, donne la date du 12 mars 1975. Mais il semblerait qu'il soit né le 13 avril 1975. C'est au moment où les papiers se sont régularisés qu'il y a eu une erreur qui se soit faite. En tout cas, c'est ce qui avait été confié par son éleveur-naisseur à la première personne qui s'est intéressée à notre histoire et qui a écrit un premier livre qui s'appelait « Crin noir », qui était notre histoire aussi et qui est sorti en 1988. Et donc, en fait, voilà, elle fait état, elle, la journaliste qui a écrit ce livre, de la date du 13 avril. Bon, donc, il y a toujours eu un petit doute, mais c'est vrai que si c'est le 13 avril, ça coïncide effectivement avec ma première grande victoire significative en concours international, en gagnant un Grand Prix international. J'avais que 20 ans.
Et le premier conflit avec l'entraîneur national.
Pas vraiment, parce que là, ce n'était pas un conflit. Moi, j'étais très pressé, très ambitieux. Donc, ayant gagné cette compétition, je pensais que tout de suite, j'allais être propulsé dans l'équipe de France. Mais j'étais jeune, très jeune. Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et l'entraîneur de l'époque, avec lequel je me suis bien entendu, d'ailleurs, qui m'a offert mes premières chances en équipe nationale, c'était Jean Dorgex. Tout le monde connaît probablement un petit peu le nom de Jean Dorgex. Mais très sagement, finalement, il avait tempéré mon ardeur et la sélection que j'espérais à Rome quelques semaines après n'était pas venue. Mais elle est venue un petit peu plus tard, il a eu raison. Et il faut savoir que le scénariste, c'est Guillaume Canet. Hein. Donc c'est lui qui a écrit. Il a d'ailleurs conditionné l'acceptation en tant qu'acteur s'il écrivait le scénario. J'ai un peu mieux compris pourquoi par la suite. Donc, en fait, il a très habilement vraiment mêlé pratiquement tous les faits ou toutes les situations sont réelles ou sont vraies. Par contre, elles ont été souvent, pour ne pas dire presque à chaque fois, transformées. Donc, sur ces deux faits, il y a effectivement eu donc le feu dans le camion. Et ça s'est passé effectivement, enfin, les deux personnes, nous n'étions pas là, les cavaliers. Les deux grooms ont dit voilà, qu'ils étaient avec les chevaux, puisqu'il y avait les chevaux d'un autre cavalier avec les miens. On revenait d'une compétition au Canada. Les chevaux, en fait, avaient atterri à Francfort, et c'était entre le chemin de Francfort et le retour sur la France. Et quand elles se sont arrêtées donc, pour faire le plein à une station-service, et là, en descendant, ils se sont aperçus que le feu était en train de prendre au toit du camion. ce qui est un miracle là aussi. Hein. On peut là encore y voir, parce que vous imaginez le feu au toit d'un camion, 5 minutes après, c'était un brasier avec la vitesse, etc., l'air. Et donc elles se sont arrêtées, immédiatement elles ont pris conscience du danger, donc elles ont avancé le camion sur le parking, elles ont fait descendre les chevaux, qui, Dieu merci, ne se sont pas échappés. Voilà, donc en fait la scène où Japlou s'échappe n'a pas existé, mais la scène du feu dans le camion est bien réelle. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas lâché les rênes sur le dernier obstacle. Je peux vous assurer que j'étais concentré, appliqué. C'était le dernier obstacle et ce n'était pas le moindre en plus en termes de difficulté. Donc j'avais même les rênes plutôt bien tendues. Et après, je lâche les rênes. C'est après, une fois qu'il a été sauté et que je vais vers la ligne d'arrivée, je ne sais pas si je lâche les deux rênes, d'ailleurs, même moi, je ne m'en souviens plus. Mais bon, là, ça n'avait plus d'importance.
Sans la bombe?
Non, alors, sans la bombe, c'est à la première manche, mais à la seconde manche, je l'avais gardée.
Seconde, parce qu'il n'y en a pas eu de troisième.
Pardon, c'est entre nous, ça, parce que quand on a écrit entre nous, il me... Alors, donc, voilà, donc les réponses à vos deux questions. Et cette jeune fille, elle n'a pas de questions, elle a vu le film? Et tu n'as pas de questions à me poser? Le feu, non, ça t'a pas choqué un peu?
Un petit peu.
Un petit peu. Ça, les jeunes, généralement, ça les bouleverse. Bon, je dois dire que ça, c'est un choix cinématographique qui est plutôt une bonne chose dans le film. Ça ajoute de la dramaturgie un peu, donc c'est bien.
Mais ce livre, c'est une vraie thérapie, finalement.
Oui, docteur. Oui, ça l'a été au regard du film, par rapport au film, oui. C'est un personnage fictionnel, comme on dit, qui a été totalement inventé par Guillaume Canet. Je dois dire que c'est plutôt bien vu, parce que je crois que c'est un très beau rôle dans le film, me semble-t-il. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est un très beau rôle d'abord qui est magnifiquement interprété par une jeune bordelaise. Vous devez la connaître, enfin peut-être, elle est Lou de l'âge. Non seulement elle est très jolie, mais elle joue très très bien. Et c'est la fille même d'un confrère de mon ami Michel Fradet, d'un confrère de Sud-Ouest. Voilà, enfin elle a fait toutes ses études ici à Bordeaux, etc. Et elle joue très bien. Et c'est un très joli rôle parce que ça fait le lien, c'est un fil rouge, quoi, en quelque sorte. Elle fait comprendre, et c'est peut-être là où évidemment moi je suis moins heureux de ce choix, mais elle fait comprendre la relation affective d'amour que l'on porte à un cheval. C'est un bon. Ce choix de ce personnage a été fait aussi parce que vous imaginez bien que les producteurs ne sont pas des philanthropes, donc ils veulent essayer de sensibiliser un public. Ils savent parfaitement qu'ils s'adressent à un public féminin en équitation et de moins de 15 ans. Dans la grande majorité, donc il fallait créer un personnage dans lequel les petites jeunes filles se reconnaissent. Donc il y a eu ce choix qui fait que ce rôle a été, enfin ce personnage a été écrit. Moi, je trouve que c'est plutôt bien senti, honnêtement. Je reproche simplement que la relation justement très d'amour avec mon cheval ait été transposée uniquement dans la relation avec la groom, parce que c'est passé à côté de la clé de ma réussite avec ce cheval-là. Et c'est pas très pédagogique par rapport aux jeunes. Voilà. Donc ça, c'était un sujet de friction et de tension avec Guillaume Canet, parce que j'ai pas aimé pas que je sois volé, mais qu'on ne montre pas véritablement ce qui a été ma démarche particulière et différente des autres, et qui explique finalement à la fois l'échec et à la fois la réussite. Oui, c'est vrai, après Los Angeles, mais on voit quand même pas la relation vraiment charnelle, parce que de jeu surtout. Il n'y a pas de scène de jeu, une à un moment donné, mais elle est toujours dictée aussi par la petite groom qui, globalement, c'est elle qui lui dit « bon, allez, fais ça ». En fait, non, c'est une démarche que j'ai engagée seule. Voilà. Ça n'existait pas, les murmureurs à l'époque, hein, les chuchoteurs, murmureurs, c'est bien après. Non, en fait, et madame a bien compris... Moi, j'adore les animaux. J'aime les animaux, tous les animaux, et j'ai une relation voilà, qui est plutôt dans l'affect avec les animaux. Donc j'avais déjà quand même, hein, je portais ça en moi, mon éducation équestre n'avait pas encouragé de trop cela avec les chevaux, mais j'étais quand même déjà dans cette relation hein, de respect, d'affection, mais pas poussé. Pas poussé, il y avait de la pudeur, il y avait le regard des autres, il y avait cette éducation. Et quand je suis tombé à Los Angeles, eh bien, je n'ai jamais accablé Japlou, parce que j'ai bien compris que lui, d'abord, il n'avait pas bien compris ce que je lui demandais, il était jeune, il n'était pas préparé à cette épreuve suffisamment dans sa tête, dans sa... Et je ne l'ai pas blâmé. Et paradoxalement, c'est à l'occasion de ces jeux que j'ai eu la confirmation, parce que jusque-là, j'avais encore des doutes, qu'il avait vraiment le niveau olympique. Et à partir de ce moment-là, je me suis... et une fois que je suis sorti de ma dépression qui a failli conduire à la vente du cheval, je me suis dit, bon, il faut que tu remettes tout à plat. Il faut que tu remettes tout à plat. Ce cheval est rebelle parce qu'il était quand même assez compliqué. Hein. Il n'adhérait pas. C'était pas non plus un méchant cheval, mais il était compliqué, très difficile, pas très réceptif à tout, pas particulièrement docile. Il avait une forte personnalité. Et je me suis dit, mais comment faire pour l'amener dans mon jeu ? Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est de le comprendre, c'est de savoir qui il est. Puisqu'en fait, bon, et là, à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment en observation de ce cheval pour comprendre son caractère, ses façons d'être, ses réactions à plein de choses. J'ai fait ce chemin vers lui et puis ensuite, je suis rentré dans une relation purement de jeu avec lui. Jamais contrainte et une relation de récompense en permanence. C'est pas que de la récompense, c'était pas que la carotte et le sucre, c'était la récompense de la caresse. De ma présence avec lui, moi je faisais les soins moi-même du cheval. C'est-à-dire que je passais autant de temps avec lui, même voire plus que sur son dos, à côté. Je l'amenais au pré, je jouais avec lui au pré, pour qu'on crée une complicité et qu'il ne me voit pas uniquement comme celui qui allait être exigeant avec lui. Parce que, après tout, lui, il n'a pas choisi hein, de sauter des obstacles. Donc, il fallait établir une relation de confiance. Donc, ça, Los Angeles a été, de ce point de vue-là, effectivement, pour moi, une remise en cause totale qui m'a conduit à approfondir. Et comme il me l'a rendu immédiatement, bah, c'est effectivement devenu une relation charnelle d'amour, quoi. Je connais Jean Rochefort, enfin lui il me connaît parce qu'il est plus âgé que moi, et il me connaît depuis que je suis môme à peu près, hein, depuis quelle époque, même de mes juniors, parce que Jean Rochefort a toujours été un passionné d'équitation. Et donc, oui, mais il vient souvent. Et moi je l'ai toujours vu sur les terrains des grandes compétitions depuis que je suis gamin. Et comme il était amoureux un cheval que j'ai eu avant Japlou, avec lequel j'avais gagné à Pau, qui était un cheval formidable, un étalon qui s'appelait Laudanum, qui était très beau. Il était alezan avec des crins blancs. Donc, on le remarquait. Hein. Laudanum, il s'appelait, un étalon. Et Jean Rochefort était amoureux de ce cheval-là. Donc, il était venu voir ce cheval et puis il me parlait. Donc, j'étais môme et comme il parlait de sa passion, que j'avais la même passion, donc je le connais depuis cette époque-là. Il a toujours... Je ne sais pas s'il était là à Los Angeles, je ne crois pas, ni à Séoul. Mais il a été là sur d'autres lieux de compétition. Il était là quand j'ai été champion de France. D'ailleurs, on le voit là aussi. Il y a cette scène, c'est au championnat de France. Et en fait, l'histoire de ma... Comment dirais-je de ma... Non, mon élimination à Longchamp... qui a été là rapporté dans le scénario sur les championnats de France, qui n'était pas Longchamp, c'était en fait à la venue de la ministre des Sports de l'époque. C'était en 81. Le public de l'équitation était un public plutôt... comment ? Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Et donc, quand la ministre des Sports socialiste est arrivée sur le stade, elle s'est fait conspuer. Et moi, j'étais en piste, prêt à partir. À ce moment-là, ça a créé un trouble. Le speaker, qui était pourtant Léon Zitrone, un homme qui avait, a demandé à la foule de se taire. Ils ont redoublé de sifflets, etc. Et moi, j'étais au beau milieu de la piste à attendre mon départ. Voilà, il y a eu un moment de flottement et je suis parti alors qu'on ne m'avait pas donné le départ. Donc, j'avais été éliminé. Et ils ont repris ce clin d'œil-là avec Jean Rochefort dans le film au moment des championnats de France. Mais Jean Rochefort, c'est une figure familière du monde de l'équitation, oui.
Tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous parliez du temps que vous passiez avec Jean-Claude à jouer, le soin et tout. Est-ce que ça vous laissait quand même du temps pour travailler avec d'autres chevaux? Ou est-ce que Jean-Claude a été pendant un certain temps votre unique amour?
Alors, en fait, quand on fait de la compétition à un niveau international, au plus haut niveau, il faut avoir plusieurs chevaux. Parce que même s'ils ne sont pas des chevaux de niveau équivalent, mais vous avez vu des concours hippiques, je pense, vous êtes allé au jumping, il y a plusieurs épreuves au programme d'un concours. Et il y a des épreuves très différentes d'ailleurs, hein, des épreuves qui se jouent plutôt sur la vitesse. Donc il faut avoir des chevaux qui aient les aptitudes à aller vite, mais les obstacles sont moins hauts généralement. Et puis après, il y a les chevaux que l'on appelle dans la catégorie des chevaux de grand prix. Ce sont ceux qui sont destinés à aller aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, etc. Donc j'avais évidemment d'autres chevaux dans mon écurie. J'ai eu à l'époque de Japlou jusqu'à 5 chevaux. Mais pour vous dire justement jusqu'où j'ai poussé le niveau de relation, c'est que quand j'ai compris que c'était avec Japlou que je pourrais peut-être toucher à mon rêve d'être champion olympique, je me suis adapté à lui. C'est-à-dire que même dans mon équitation, j'ai changé mon équitation, mon attitude à cheval, etc., pour être en harmonie avec lui. Je suis allé jusque-là. Et en fait, les autres, je les montais comme Japlou. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire vraiment l'effort de m'adapter aux autres pour ne pas changer mes automatismes avec Japlou. Alors, ce n'était pas pour autant que je ne les aimais pas. Ils étaient tous très choyés. Et j'avais quand même un relationnel avec eux aussi qui était toujours le même, mais je n'ai jamais approfondi les liens avec eux comme je l'ai fait avec Japlou. Il était quasi exclusif.
Japlou avait-il des exigences d'emplacement dans une écurie quand vous étiez en compétition quelque part?
Oui.
Fallait-il le mettre à l'écart, au milieu des autres, à droite, à gauche?
Il avait, alors, c'était un cheval solitaire. Dans mon livre, je dis, tu as accepté ce terme, qu'il était autiste. Il était un peu autiste, c'est vrai, parce qu'il l'était vis-à-vis des autres chevaux. C'est très rare que généralement, les chevaux, vous le savez, ils ont l'instinct grégaire. Ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien quand ils sont en groupe. Et dès l'instant où ils ont un voisin de boxe ou dans un pré, ils deviennent immédiatement dans une relation indéfectible, ils ne peuvent pas se quitter. Et quand l'un part, l'autre est malheureux, il est hennit, enfin, ça les perturbe beaucoup. Et donc, c'est vrai, dans l'ambiance d'une écurie, quand les chevaux se connaissent, ben, que s'il y en a un seul qui reste, que les autres s'en vont, hein, les chevaux deviennent fous, parfois, pour certains. Hein, très inquiets. Et Japlou, lui, pas du tout. Les autres pouvaient partir. Non, il était très solitaire. Il était très solitaire. Et il n'avait pas cet instinct-là. Et aussi avec l'homme au début. Hein, parce que si je ne l'ai pas compris aussi, c'est parce que lui n'a pas été très difficile à interpréter. Il n'allait pas vers l'homme. Il ne le rejetait pas, mais il n'allait pas vers. Donc il était assez énigmatique, ce cheval-là, assez mystérieux. J'avais eu du mal, moi, à le cerner. Alors, il avait une particularité, alors vraiment, c'est qu'il ne mangeait pas s'il n'avait pas à côté de lui son abreuvoir ou l'eau. Souvent, les chevaux, ils ont la mangeoire à un côté du box et l'abreuvoir à l'autre côté, parce qu'on dit qu'il ne faut pas qu'ils fassent les deux en même temps. Eh bien, lui, ça n'allait pas. Il fallait que chaque fois qu'il mangeait, qu'il prenait une bouchée de grain, à l'époque, il boive en même temps. D'ailleurs, son abreuvoir ou son truc, c'était immonde parce qu'il y avait autant de... Et donc, s'il n'avait pas ça, il ne mangeait pas. Donc, il fallait toujours lui aménager ça à lui. Voilà, ça, c'était une de ses particularités, notamment. Et puis, lui ménager des endroits très calmes parce qu'il était anxieux, C'est en fait un cheval très anxieux, donc il fallait qu'il soit dans des endroits paisibles, calmes, où il pouvait se reposer vraiment beaucoup.
Est-ce qu'il était fragile de santé ou...
Non.
Non.
Comme je vous l'ai dit, c'est même ce qui fait aussi une des caractéristiques de cette histoire, j'allais dire, c'est qu'elle s'est quand même, sportivement parlant, inscrite dans la durée. 10 années de haute compétition. Avec Japlou, j'ai fait 4 championnats d'Europe, 5 finales de Coupe du Monde, 2 championnats du Monde, 2 Jeux Olympiques. Je peux vous dire que c'est rare les chevaux qui se maintiennent à ce niveau pendant 10 ans. Hein. Donc pour cela, déjà, il ne faut pas qu'il soit blessé. Oui, il était résistant, très résistant. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est son côté trotteur. Les trotteurs, vous savez, sont des chevaux résistants. Ils sont le fruit d'une sélection impitoyable sur le physique. Donc ils sont forts physiquement. Donc il l'était. Et puis sa petite taille, donc son faible poids aussi, a fait qu'il était félin et qu'il n'avait pas de blessure. Et je pense, j'ose espérer aussi, ma gestion très sage de lui a fait que.
Il ne voulait pas vous décevoir.
À la fin, c'est sûr qu'en tout cas, il sentait très bien les enjeux. Il sentait très très bien les enjeux.
Vous le montiez avec légèreté?
Non, je ne peux pas dire que j'étais le cavalier le plus léger qui
Non,
soit. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Pas. Dans le poids, je suis léger. Je l'ai toujours été. Mais j'étais un cavalier assez directif. Donc voilà, j'aimais que mon cheval me respecte mes ordres et j'avais pas une mauvaise main, puisque je le montais en bride, donc il valait mieux ne pas avoir une mauvaise main. Bon, enfin, parfois aussi, je savais le contenir. Non, j'étais très présent physiquement sur lui. Mais je crois qu'il fallait aussi quand même le monter comme ça. Parce qu'il était très explosif, donc.
Avez-vous vraiment essayé plusieurs mois avant de trouver le bon?
Oui, absolument, oui. Parce qu'il avait un gros défaut, il était en bascule avant de son poids sur les épaules, et puis il s'enfermait comme ça en dedans de la main. Donc, encapuchonné, absolument. Donc, il a fallu trouver un mort sur lequel il ait confiance pour oser se reposer sur le mort, accepter la tension de la main. Et j'ai tâtonné un peu. Mais j'ai pu trouver les bonnes embouchures quand même qui lui convenaient parfaitement. Mais les embouchures, vous savez, ça fait partie un peu des réglages très fins qu'il faut d'abord adapter à sa propre équitation, à l'intensité de ses actions. Et puis ensuite, par rapport à ce que l'on recherche de son cheval, c'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui fait des réglages. Et chaque pilote de Formule 1 n'a pas les mêmes réglages sur sa voiture. Hein. On aime certaines choses, d'autres moins. Donc l'embouchure participe de ces réglages, là aussi, hein, avec la main du cavalier. Après, merci, merci beaucoup. Hein. Merci à Michel. Mais reste à côté, parce que peut-être qu'on voudra te faire signer sur le livre auquel tu as concouru. Activement.